Vous tourniez avec moi dans l'Ecclésiaste, nous sommes arrivés au chapitre 3. Et la dernière fois, nous avons lu qu'il y avait un temps pour tout. Hein, vous vous souvenez de cette longue liste, ces 14 contrastes qui nous étaient donnés, de ces choses qui semblaient s'annuler. Hein. Il y a un moment pour naître et un moment pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher, etc. etc. Et par cela, Salomon nous apprenait à regarder la vie telle qu'elle est. Comme vous le savez, il essaye d'observer la vie, de comprendre ce qu'elle est, mais d'un point de vue horizontal, sous le soleil. Et jusqu'à présent, la conclusion auquel il est arrivé, c'était que toutes les choses avaient tendance à s'annuler, qu'il y avait une certaine un certain vide dans la vie, que la vie semblait sans grande consistance, que la vie était, selon les mots de la fin du chapitre 2, que c'était dérisoire, comme une fumée qui partait. Alors bien sûr, ce n'est pas une perspective très réjouissante. Et ce qui est magnifique dans la partie que nous allons voir aujourd'hui, c'est que Salomon va nous donner une autre perspective. Il va ouvrir pendant un petit moment la perspective divine sur cette vie. Il va changer de point de vue, si vous voulez. Alors, de temps en temps, dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon fait cela. Heureusement d'ailleurs, je suis content qu'il le fasse, parce que autrement, si c'était que j'ai essayé ceci et ce n'était que du vent, j'ai essayé cela et ça n'aboutissait pas à la joie, à la paix, j'ai essayé encore cette autre chose et ça aussi ce n'était que folie. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on a envie de refermer le livre et de plus jamais l'ouvrir. Et là, il va nous dire ceci, verset 9, Ecclésiaste chapitre 3, verset 9, nous allons lire jusqu'au verset 15. « Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne ? J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Aussi ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que jouir du bonheur et se donner du bon temps durant sa vie. Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. » Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu l'a fait aussi pour qu'on le révère. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé. Et ce qui sera dans l'avenir a déjà été. Et Dieu fait revenir ce qui a disparu. Ici, nous avons ce point de vue, cette question, à quoi est-ce que ça sert tout ça? Il commence, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? Hein, vous vous souvenez ce qu'il avait dit avant, il y avait un temps pour ceci, un temps pour cela, et on avait l'impression que ces choses s'annulaient, que ces choses se contrecarraient. Et donc, à la fin, on se dit, mais à quoi ça sert la vie dans ce monde? Mais au verset 11, il nous dit ceci, qui est là pour moi, vraiment cette ouverture. cette compréhension que Dieu fait toutes choses belles en son temps, au moment voulu. Ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe dans le monde est beau. Il y a énormément de choses qui ne sont pas. Mais dans la perspective divine, il y a dans toute chose un moment où Dieu va l'utiliser pour quelque chose de bien. Vous savez, cette pensée, Paul l'a reprise dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez dans Romains au chapitre 8, lorsqu'il nous dit que nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et là, ça change la perspective dans ce monde. Il est vrai qu'un petit peu plus loin, il nous dit « L'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. » Et c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Notre point de vue est totalement limité. Notre point de vue est sur l'instant. On se souvient un peu du passé, on essaie de se projeter dans l'avenir, mais quelque part, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne comprend pas nécessairement ce que Dieu fait. Mais parce que Dieu est bon, nous savons que Dieu a pour projet de faire ce qui est bien. Et qu'en son temps, tout apparaîtra comme étant pour le bien. Alors, c'est ce que nous devons apprendre à vivre, justement, lorsque les choses ne vont pas bien. C'est cette perspective sur l'éternité, cette perspective sur un Dieu qui est bon, qui doit à ce moment-là apparaître dans notre vie, dans notre cœur, dans notre pensée, pour pouvoir survivre au deuil, pour pouvoir survivre à la maladie, survivre aux accidents, survivre à tout ce qui nous arrive dans nos vies, qui ne sont pas belles, qui ne sont pas bonnes, qui sont du fait du péché dans ce monde, qui sont du fait de la méchanceté dans ce monde. Ce texte ne nous dit pas que tout est beau, mais que Dieu travaille de telle façon à faire toute chose belle en son temps. Ça nous affirme ce point de vue-là. Et je vous dis, notre ami Salomon, il change de point de vue. Heureusement, il ne regarde plus les choses d'un point de vue horizontal. Maintenant, il est en train de les regarder pendant un petit moment d'un point de vue vertical. Il est en train de considérer les choses avec Dieu maintenant au centre. Et dans cette perspective-là, d'un seul coup, cela change la façon dont on voit les choses, parce qu'on se rend compte que Dieu œuvre, qu'il travaille pour le bien et qu'il va l'accomplir pour nous. Ce qui nous déconcerte, c'est que Dieu travaille souvent au-delà de ce que nous pouvons voir, au-delà de ce que nous pouvons ressentir, au-delà de ce que nous semblons vivre. Et donc, nous ne comprenons pas quand les choses arrivent qui sont mauvaises. Et je ne suis pas là pour en train de vous dire, ah non, il faut les appeler belles. Non, elles ne sont pas belles, elles sont mauvaises. Mais si nous avons la perspective que Dieu est là, nous savons qu'il a cette capacité de transformer même ces choses mauvaises pour notre bien. Qu'il transformera ces choses qui sont mauvaises pour le bien, mais en son temps, qui n'est pas le nôtre. C'est difficile à vivre lorsque nous sommes dans ce temps, coincés, prisonniers. Mais merci Seigneur pour cette ouverture, que Salomon nous donne pendant un instant. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Comme vous le savez, Ma fille Caroline, non, ça va, elle n'est pas là, hein. Je peux encore parler d'elle. Ma fille Caroline est en terminale. Alors, terminale, c'est le grand moment où ils étudient la philosophie. Du moins, ils essayent d'étudier la philosophie. Malheureusement, dans son cas, j'ai perdu le compte maintenant de combien de profs de philo elle a vu depuis le début de l'année. Je ne sais plus si c'est 6 ou plus. Enfin bon, ils les changent tout le temps parce que voilà. C'est, voilà. Et la question qui se pose souvent quand même, alors elle ne se pose pas trop de questions parce que les trois quarts du temps, il n'y a pas de cours, mais bon, de temps en temps, c'est quand même la différence entre les êtres humains et les animaux. Quelles sont les différences entre les êtres humains et les animaux ? Et elle me dit souvent ce que les profs de philo lui disent et on rigole ensemble parce que ce sont des notions qui sont totalement dépassées depuis des années. Parce qu'on s'aperçoit que les êtres animaux, tous les êtres vivants, en particulier les animaux qui ont quand même une certaine intelligence, eh bien font pas mal de choses qui nous surprennent. Et avant, on s'imaginait que la possibilité de se projeter dans l'avenir, bon, c'était que nous, les êtres humains, qui l'avions. Mais bon, on s'aperçoit que les animaux, en particulier les singes, mais d'autres, sont capables de réfléchir et de se projeter et avoir un projet et un plan. On s'imaginait pendant longtemps que les animaux ne communiquaient pas, mais on s'aperçoit qu'ils ont une certaine capacité à communiquer. On s'imaginait pendant longtemps que les animaux n'avaient pas de conception de la mort, qu'ils n'étaient pas attristés par la mort de leur congénère, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, on le sait maintenant. On a des cas d'oiseaux qui montrent de la peine la disparition de leurs congénères. On a des cas, bien sûr, des éléphants hein, qui passent beaucoup de temps à garder le cadavre de leur compagnon et qui même passent du temps à caresser les os de leurs congénères. Alors, l'être humain, qu'est-ce qui est différent dans l'être humain ? Eh bien, je pense ici que nous avons quand même un commencement de réponse. C'est ce sens de l'éternité. Ce sens de l'éternité. Ce sentiment qu'il y a plus que ce que nous avons dans ce monde. Ce sentiment que les choses devraient être plus belles qu'elles ne sont, qu'elles devraient être meilleures qu'elles ne sont. Ce profond désir de rechercher au-delà de ce que nous voyons, de nous projeter non pas pour le lendemain ou le surlendemain, mais nous projeter même au-delà de la mort. Je trouve que c'est absolument fascinant. C'est ça. C'est ce sentiment d'éternité, c'est ce vide que nous avons en nous. Un grand théologien disait qu'on avait ce vide en nous qui était en forme de Dieu et que rien ne pouvait le remplir. Hein? Rien ne pouvait le remplir que Dieu lui-même. Et ça c'est ce qui fait l'être humain. C'est pour ça que les gens qui essayent de vivre sans Dieu, sans perspective d'éternité, sont des gens qui courent après toutes sortes de plaisirs, mais qui n'arrivent jamais à être satisfaits. Parce que le besoin que Dieu a mis en nous est beaucoup plus grand que cela. Ce sens de l'éternité. J'ai vu un film avec mes enfants il n'y a pas longtemps. Je ne le recommande pas pour vous. On penserait que c'est un film pour les enfants, mais ça ne l'est pas. C'est plutôt un film pour les adultes, de façon assez curieuse. C'est Max et les Maxi-monstres. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient vu. Alors, je le dis tout de suite, hein. Si c'est pour les enfants, c'est pour les grands-enfants à ce moment-là, pas pour les petits. Et c'est un film assez désespérant. Il y a dans le film, à un moment, il y a un instituteur qui est en train de parler aux enfants et qui leur dit ce qui va arriver dans notre système solaire. Que dans quelques milliards d'années, notre soleil va devenir énorme, hein, va, vers la fin de sa vie, les étoiles deviennent plus grosses et va brûler la Terre, et va brûler même carrément tout le système solaire, et tout va disparaître. Perspective réjouissante à donner à des enfants. Et puis, il continue, le prof, et là, c'est là où je suis plié, il continue en disant, mais de toute façon, les êtres humains seront probablement détruits avant ça, avec notre pollution ou nos guerres. Bon, après, on se demande pourquoi le pauvre enfant est déchaîné, hein, parce que Max a un problème de colère, il ne sait pas comment gérer sa colère. Ouais. Parce que si la vie dans ce monde, c'est juste vivre pendant quelques années, et que de toute façon, un jour, l'humanité disparaîtra, notre Terre disparaîtra, et l'univers va s'arrêter de fonctionner, si c'est ça la perspective, à quoi ça sert tout ça ? Si on y réfléchit trop, on devient fou. Moi, c'est ce que je pense qui arrive à nos profs de philo. Franchement, je ne peux pas m'expliquer ces maladies à répétition et le fait qu'on ne puisse pas en trouver un pour enseigner, que les uns après les autres, ils disparaissent. Mais bon, il y a en nous ce désir de plus, ce désir d'éternité. Mais tant qu'on ne trouve pas Dieu, on est malheureux, on tourne en rond. Nous avons cette capacité, parce que Dieu a placé cette pensée de l'éternité, ce sens de l'éternité en nous, cette capacité à nous poser la question sur le futur et sur l'au-delà. Nous avons aussi, à cause de cette pensée de l'éternité, ça nous amène à réfléchir à nos vies et à réaliser que les plaisirs et les occupations terrestres ne vont jamais être suffisantes pour combler ce sens de l'éternité. C'est pour ça que les gens s'enfuient. Ils s'enfuient dans la drogue, ils s'enfuient dans l'alcool, ils s'enfuient dans le jeu, ils s'enfuient dans toutes sortes de dérives pour essayer de se sentir mieux. Ou alors ils s'enfuient dans le travail. Mais à la fin, rien ne satisfait complètement. La soif de perfection, la soif de beauté, la soif du bien ne peut pas être étanchée dans ce monde. Le Seigneur Jésus disait, venez à moi, vous qui avez soif. Seul lui peut étancher notre soif. Seul lui peut donner un sens à notre vie qui apporte paix et satisfaction. Parce que nous sommes des êtres spirituels, créés à l'image de Dieu. Cette image de Dieu, on se pose la question, qu'est-ce que c'est ? Je vous ai parlé de cette distinction entre les animaux et les êtres humains et les questions qu'on se pose, mais qu'est-ce qui fait la différence ? Et certains arrivent à la conclusion, en fait, on est juste des animaux un petit peu plus évolués, c'est tout. Mais quelle vision désespérante de la vie. Certains s'imaginent qu'on est juste des animaux totalement contrôlés en fait par nos hormones et quelque part incapables de dépasser notre programmation interne. Certains voudraient presque faire de nous des automates. Quelle vision désespérante. Nous sommes plus que des animaux. Oui, nous communiquons, oui, nous éprouvons de l'affection, de l'attachement, de l'amour, oui, nous pouvons apprendre, oui, nous pouvons nous montrer curieux, mais ce qui nous distingue véritablement des animaux, c'est cette soif d'éternité. Notre problème, comme nous dit le texte, c'est que l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Il y a là un appel à l'humilité. Appel à l'humilité. Et appel aussi, moi je vous dirais, à la confiance. La seule solution à un moment, c'est de faire confiance à Dieu. C'est cette foi qui s'accroche à lui, même si dans le moment présent, rien ne va plus. Et c'est la seule façon de vivre. Alors, il continue en nous disant, au verset 12, « Aussi ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que de jouir du bonheur et de donner du bon temps, se donner du bon temps durant sa vie. » Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Et là, il y a une autre perspective qui est intéressante. C'est que les bonnes choses qui sont dans notre vie, ce sont quoi? Il nous dit, ce sont des dons de Dieu. Je vous ai parlé de Thanksgiving. Thanksgiving, je trouve que c'est une fête magnifique. Et c'est pour ça que je suis un petit peu attristé de la voir quelque part transformée, violée, de l'avoir trahi. Une fête d'un pays qui dit « Il est bon de faire une pause dans notre vie pour remercier Dieu ». Ils ne disent pas, bien sûr, on ne dit pas quel Dieu remercier, hein, mais je trouve que c'est une fête magnifique, personnellement. Apprendre à voir non seulement les problèmes de la vie et faire confiance à Dieu, mais aussi dans ce qui est bon, apprendre à voir Dieu et lui dire merci. C'est la recette pour le contentement. C'est la recette pour le bonheur. Il y a des gens qui ont plein de choses. Et on est surpris, on se dit, mais ils ont tout pour être heureux, mais pourquoi sont-ils malheureux? Ils n'ont pas appris le contentement. Ce trou qui est dans leur vie, ils essaient de le remplir par des tas de choses. Et comme ils ne savent pas que cette chose qu'ils essaient de trouver, c'est Dieu, eh bien, d'un point de vue humain, ils semblent avoir tout pour être heureux, mais ils ne sont pas heureux, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Parce que leur vie n'a pas de sens. Elle a un sens maintenant, elle peut être sympathique. Mais pour l'éternité, quel sens ? Je suis toujours étonné de voir les différences de conception entre les États-Unis et la France, en particulier sur le travail. Nos amis américains voient dans le travail le bonheur. Le bonheur, c'est le travail. C'est une notion bizarre hein, pour nous. Hein. Le bonheur, c'est le travail. Alors, plus ils travaillent, plus ils sont heureux. Ça leur permet d'avoir de l'argent pour acheter des choses. Et puis après, il faut avoir plus d'argent pour acheter plus de choses. Et donc, on travaille. Et c'est un petit peu... Alors, les Français n'ont pas vraiment cette conception, enfin, du moins, pas ceux que je connais. le travail, c'est quelque chose qui semble être imposé, dont on aimerait bien se débarrasser. Pour beaucoup, c'est ça. Ce qui fait vraiment la vie, c'est les loisirs. Hein, c'est le voyage, c'est la famille, c'est tout ça. Donc, on travaille, mais pas pour y trouver... satisfaction, pas pour trouver un certain sens à notre vie, mais plutôt en attendant de pouvoir faire les choses qu'on a envie de faire, dans la perspective de pouvoir faire les choses qu'on a envie de faire. Ici, il nous dit qu'il y a possibilité de jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, que dans le travail, il peut y avoir satisfaction, que lorsqu'on a tout ce dont on a besoin pour vivre, avoir à manger, avoir à boire. Il y a, si on apprend la reconnaissance, il y a là quelque chose de bien. Mais il faut reconnaître ces choses comme venant de Dieu. Vous savez, le travail, Dieu l'avait donné à Adam et Ève avant la chute. Ils devaient s'occuper du jardin. Avant la chute, il y avait déjà le travail. La seule différence, c'est qu'il n'était pas pénible. Le problème dans notre monde, c'est que le travail est devenu pénible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas là aussi des occasions de remercier Dieu. Il nous dit que le seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Se réjouir dans le bonheur, bien agir, bien vivre. C'est Dieu qui nous donne cette capacité à nous réjouir et apprécier la vie. Il est important que nous développions ce don de gratitude. Je vous garantis, les amis, si vous ne développez pas ce don de gratitude et si vous n'apprenez pas à vos enfants de développer ce don de gratitude, ils seront malheureux, vous serez malheureux. On a Noël qui approche. Hein? Noël qui approche. Est-ce qu'on peut être heureux même si on n'a pas exactement tout ce qu'on voulait sous le sapin? Est-ce qu'on peut être heureux des choses qu'on aura reçues? Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour ce que l'on a? Dieu nous donne la capacité de faire le bien aussi. Et ça, c'est fascinant. Une autre traduction dit « Le seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. » Bien agir. Bien agir pendant la vie. Nous sommes appelés à refléter Jésus-Christ. Et Jésus est venu sur la terre pour faire le bien. Vous vous souvenez, lorsqu'il marchait sur la terre, les gens étaient attirés par lui. Pourquoi ? Parce qu'il faisait le bien. Il apportait du bien aux gens, que ce soit en les guérissant, mais surtout en les sauvant. Et nous, il nous appelle à le suivre là-dedans et à être des lumières dans ce monde. Moi, je suis toujours émerveillé de voir les gens qui sont très riches. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'imaginent s'ils étaient très riches, tout irait bien. Et on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui sont très riches et qui ne vont pas bien du tout. Mais ce n'est pas vrai de tous. Il y en a qui semblent aller bien. Vous savez lesquels sont ceux qui vont bien? Quel est ce qu'il y a dans leur vie, dans ceux qui vont bien? C'est parce qu'ils ont appris que leur richesse, ce n'était pas juste pour eux. Que leur richesse, ils l'utilisaient pour faire le bien pour les autres, à ce moment-là, il y avait le véritable bonheur. Il y a des gens qui sont très riches et qui sont bien dans leur peau. Mais vous verrez que ce sont des gens qui passent leur temps à utiliser leur pouvoir et leur richesse pour aider les autres. Et nous ? Nous sommes appelés aussi à faire le bien, à être la lumière dans ce monde de ténèbres, à marcher dans les œuvres que Jésus, que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour que nous les accomplissions. Nous avons la capacité non seulement de nous réjouir et d'apprécier la vie, nous avons aussi la capacité de faire le bien. C'est Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Nous devons apprendre à l'apprécier. Dans un texte qui, presque d'un bout à l'autre, nous dit que tout est vain, que toute la poursuite est vaine, quel bonheur d'avoir ces versets pour nous rappeler l'essentiel. Prendre plaisir, jouir du bonheur au milieu du dur labeur. Je voyais encore une émission à la télé où on parlait du travail. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et il nous donnait cette définition du travail comme étant à la base un mot qui vient du latin et qui parle d'un instrument de torture. C'est notre perspective bien française des choses qui peut-être nous avons hérité de nos ancêtres. Non. Non, le travail nous est donné par Dieu pour pouvoir avancer. Et le travail, ce qui est magnifique, c'est que nous pouvons l'appliquer quel qu'il soit pour la gloire de Dieu. Quel qu'il soit. Même des choses qui sont toutes simples, même des choses que le monde ne reconnaît pas comme étant importantes, si nous les faisons dans la perspective de l'éternité, si nous les faisons pour la gloire de Dieu, alors Dieu le reconnaît comme étant important et nous pouvons le glorifier dans nos vies. Nous pouvons glorifier Dieu en changeant une couche, nous pouvons glorifier Dieu en passant le balai, nous pouvons glorifier Dieu en enseignant, nous pouvons glorifier Dieu en faisant tous les travaux qui existent dans ce monde. Il termine. Je sais que tout ce que fait Dieu demeurera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révère. Ici, qu'est-ce qu'il nous rappelle d'important? C'est qu'avec Dieu, tout est parfait. C'est qu'avec Dieu, il sait exactement ce qu'il fait. Avec Dieu, il n'y a pas à revenir. Ce qu'il a accompli, est permanent. Il n'y a rien de superficiel. Vous savez, lorsque Christ est venu sur la terre, il a accompli notre salut une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il n'y a rien que nous puissions ajouter à notre salut pour le rendre meilleur. Notre salut est acquis. Il y a beaucoup de chrétiens qui se trompent dans notre monde parce qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent ajouter au salut que Jésus nous a procuré quelque chose, alors que ce salut n'est pas suffisant, hein, et que nous devons apporter notre pierre. Non. Nous devons bâtir sur le salut qui est complet et parfait. Nous devons bâtir dessus. Mais nous n'avons pas apporté notre pierre à ce salut. Ce salut, Christ l'a accompli complètement en mourant pour toutes nos fautes, tous nos péchés à la croix. Et il nous l'offre complètement. Par la grâce seule, vous êtes sauvés. Par la grâce seule, vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. Pas par les œuvres. Si on a compris ça, quelle libération! Quelle libération! Après, ça nous libère justement pour pouvoir faire ce qui est bien. Parce que maintenant, nous pouvons le faire à la gloire de Dieu. Maintenant, nous savons pourquoi nous avons été appelés. Et nous le faisons en sachant que Dieu a préparé ces choses en avance pour que nous les faisions. Ce que Dieu accomplit est permanent. Ce que Dieu accomplit est parfait. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien retracher. Ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, il n'y a rien à ajouter ni retranché. Il a pris tous nos péchés une bonne fois pour toutes et a fait de nous ses enfants. Mais le but de tout cela, c'est quoi? De comprendre que nous avons un Dieu si extraordinaire, si grand, qui voit tout du commencement à la fin et qui accomplit tout en son temps pour que ce soit bien. Notre réaction devrait être l'admiration. Notre réaction devrait être l'adoration. Notre réaction devrait être la crainte aussi. Seigneur, tu l'as fait ainsi pour qu'on te révère. Est-ce que je te révère? Est-ce que j'ai compris qui tu es? Toi, ce Dieu qui dépasse tout notre entendement. Toi, ce Dieu créateur tellement extraordinaire, toi qui as créé tout l'univers, et moi, pauvre petite créature, tu as fait de moi ton enfant, et tu as mis en moi ce désir d'éternité. Ah, ah, notre vie. Notre vie, si nous comprenons cela, devrait être différente. Notre vie peut être différente. Nous pouvons vivre dans la paix, dans la joie, dans le contentement, avec une perspective d'un avenir qui est parfait. Et quoi qu'il nous arrive dans ce monde, nous savons que toute chose concourt à notre bien. Ce texte, j'espère que vous le marquerez dans votre Bible, parce que dans le livre de l'Ecclésiaste, il n'y en a pas trop comme ça. Après, nous allons voir des choses qui sont beaucoup moins réjouissantes. Mais ça, Ça, quelle ouverture. Ouverture pour nous faire réfléchir à ce que nous sommes. Pourquoi nous sommes dans ce monde? Comment vivre? Comment réfléchir? Comment être? Que le Seigneur nous aide à vivre dans cette perspective. Qu'il garde les cieux ouverts devant nos yeux pour que nous puissions continuer de l'admirer, de le craindre, de le respecter et de lui faire confiance. Je vous propose de prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour ces textes de Salomon. Oui, il regarde les choses d'un point de vue humain, sous le soleil, d'un point de vue très horizontal. Et Seigneur, il avait essayé toutes sortes de directions différentes. Et à chaque fois, Seigneur, sa conclusion, c'est que les choses étaient vaines, que les choses dans ce monde semblaient s'annuler. Mais Seigneur, avec toi, rien n'est vain. Parce que tu recherches le bien, parce que tu veux que nous vivions éternellement avec toi. Seigneur, tu fais toutes choses belles en ton temps. Seigneur, nous savons que tu nous donnes des belles et bonnes choses à apprécier dans notre vie. Donne-nous des cœurs reconnaissants. Seigneur, lorsque les choses sont compliquées et difficiles, donne-nous des cœurs pleins de foi et d'espérance, qui avons cette capacité de voir au-delà de ce qui se passe maintenant pour se reposer en toi. Seigneur, fais de nous des personnes joyeuses, des personnes équilibrées, de véritables êtres humains qui vivent en toi, pour toi, et qui recherchent le bien de tous, à la gloire de ton nom. Amen.